Europe 1.
18h31, place au débat des grandes voix dans votre grand journal du soir. Vous êtes ce soir, François, avec le climatologue Jean Jouzel, Samuel Vandel, président des Jeunes Agriculteurs, et vos réactions au 39-21.
Bonsoir, monsieur Jouzel.
Bonsoir.
Merci d'être ce soir sur Europe 1. Bonsoir, Samuel Vandel. Samuel Vandel,
bonsoir.
Pardon, j'ai mal prononcé votre nom. Hein. Bonsoir, vous êtes le président des Jeunes Agriculteurs. Merci à tous les deux de répondre également aux interrogations de nos auditeurs au 39-21. Jean Jouzel, première question. Vendredi à la même heure, on évoquait des températures de plus de 40 degrés du côté de Besançon. Nous entrons dans le deuxième épisode, cette fois-ci clairement caniculaire, puisqu'il va s'étendre sur 5 jours. C'est pour vous le signe indéniable d'un réchauffement structurel et endémique de la planète ?
Oui, ces pics de chaleur s'inscrivent vraiment dans un contexte de réchauffement global. Ce que l'on dit de façon assez simpliste peut-être, c'est que les pics, les records de température augmentent 2 fois plus vite que la température moyenne le jour, 3 fois plus vite la nuit. Donc c'est tout à fait normal qu'à mesure que la température moyenne augmente, et elle a augmenté de près d'1,5 degré en France depuis ma jeunesse, eh bien les records de chaleur augmentent également, et on doit s'attendre, alors on parle, bien sûr c'est pas la température moyenne, mais on doit s'attendre à, peut-être pas à chaque année où les records seront battus, on battra peut-être probablement pas le record de l'an dernier cette année de 46 degrés, mais on doit s'attendre effectivement, je dirais presque malheureusement, parce qu'il y a des conséquences à des vagues de chaleur plus longues, plus intenses, disons avec des pics de chaleur plus importants sur l'ensemble du pays, et c'est vrai pour l'ensemble de la planète évidemment.
Et de plus en plus rapproché, puisque vous évoquiez 2019, c'était seulement en juin dernier. Conséquences, j'imagine, terribles pour vous au niveau de l'exercice tout simplement de votre métier, Samuel Vandel. 72 départements, à l'heure où nous parlons, sont obligés, du fait de ces conditions climatiques si singulières, d'imposer des mesures de restriction d'eau, ce qui rend le travail de l'agriculture quasi impossible.
Et oui, c'est vrai que le travail est beaucoup plus conséquent et beaucoup plus difficile à exercer. Alors déjà, les premières conséquences de ces températures fortes et de ce manque de pluviométrie depuis le mois d'avril, c'est que déjà les rendements n'ont pas été présents suite aux récoltes. Et puis derrière, sur toutes les cultures aujourd'hui qui nécessitent d'être arrosées, d'être soignées, aujourd'hui ce n'est plus possible. Moi je pense aussi à tous les éleveurs. Quand on sillonne la France, on peut voir aujourd'hui des prairies qui ont l'habitude d'être à peu près vertes et qui, depuis quelques années durant l'été, sont complètement grillées, qui nécessitent aux éleveurs de devoir rapporter directement du fourrage, du foin aux animaux directement dans les prairies, et donc de taper directement dans leur stock qui leur sert normalement pour l'hiver. C'est pour ça qu'il va falloir aller de l'avant. Il faut qu'on puisse moderniser nos systèmes de production tout en prenant bien sûr en compte le dérèglement climatique. Alors moi, au lieu de réchauffement climatique, je parle plutôt de dérèglement climatique, parce qu'on voit bien que là, au niveau de la chaleur, c'est peut-être du réchauffement, mais on a aussi des phénomènes qui sont de plus en plus exceptionnels, qui sont de plus en plus significatifs, avec des pointes en pluviométrie l'hiver beaucoup plus importantes, et puis des déficits hydriques beaucoup plus importants l'été.
Vous souscrivez, Jean Jouzel, à ce terme de dérèglement ?
Oui, j'aime bien adopter le terme réchauffement climatique, parce que la première conséquence, c'est bien l'augmentation moyenne des températures, mais c'est évidemment un dérèglement, et peut-être pour aller dans le sens de Samuel, eh bien c'est clair que les rendements en blé cette année ont été plus faibles. On parle de rendements de 25 à 30% plus faibles qu'une année normale, en tout cas. Et ceci, dans certaines régions, j'ai mon propre frère qui est agriculteur et il a dû refaire le blé, et effectivement, et les rendements sont beaucoup moins importants. Et là, dans ce cas-là, c'est parce que l'hiver était trop pluvieux dans certaines régions. Donc on voit bien la difficulté. Le monde agricole est effectivement très tributaire. Bien sûr, il le sait, tous les agriculteurs le savent, du temps qu'il fait, et voilà, un hiver trop pluvieux n'est pas tel qu'il a été, et un hiver trop doux peut-être aussi n'est pas non plus favorable dans ce cas-là, évidemment, au rendement du blé. Ça a été le cas pour cette année 2020, et les rendements de blé sont loin d'être à la hauteur de ceux qui auraient pu être espérés, effectivement.
On a vu également, Jean Jouzel, une alerte très spectaculaire autour du glacier des Grandes Jorasses sur le Mont Blanc du côté italien. On a dû évacuer un petit village. C'est là également une conséquence de ce réchauffement ?
Oui, on voit bien ce glacier, donc on voit les images de cette fracture qui est très large, qui est liée aux différences de température très importantes. Il y a effectivement toujours des périodes froides, mais cette période très chaude, ces 4-5 jours très chauds, font que cette fracture peut s'accentuer et effectivement conduire à, disons, pratiquement à la chute de blocs énormes, puisqu'on parle de 500 000 mètres cubes, c'est-à-dire un cube de 80 mètres de côté. On voit bien, donc je crois, enfin, disons, il est clair que les autorités italiennes, enfin du Val d'Aoste, de Courmayeur, ont eu raison de prendre ces mesures. Ça a déjà été évoqué l'an dernier, peut-être avec un moindre risque. C'est de nouveau évoqué cette année et bien sûr, ça rentrera dans l'ordre une fois la vague de chaleur terminée, on l'espère, mais à un moment, eh bien, une vague de chaleur encore plus importante dans les années à venir fera que risque vraiment de faire que ce glacier, cette partie du glacier se détache avec des conséquences dans la vallée qui seront loin d'être, qui seront quand même assez importantes à la fois pour ceux qui sont évacués, mais aussi pour, par exemple, le tourisme est complètement à l'arrêt dans cette région du Val d'Aoste au cours de cette semaine et il y a ces risques qui sont là. C'est vraiment lié, oui, effectivement, au climat, au réchauffement climatique et les glaciers sont vraiment qui sont en difficulté. Et il y a aussi un autre problème dans les régions montagneuses, c'est le fait que des parois rocheuses qui étaient complètement gelées, qui n'avaient jamais dégelé, dégèlent à cause des vagues de chaleur et ça rend ces parois rocheuses un peu très fragiles et donc ça accélère, ça peut aussi accélérer les chutes de pierres. Donc l'alpinisme est aussi plus difficile dans ces régions. Donc
On voit
toutes ces régions.
directement, avec vous, là, avec ce que vous décrivez, l'impact que ce réchauffement, Jean Jouzel, a sur notre vie quotidienne. Vous avez Samuel Vandal, président des jeunes agriculteurs, je rappelle, des collègues qui disent, du fait justement de ces conditions difficiles, voire insupportables, je jette l'éponge, j'arrête.
Alors on en a quelques-uns parce que si vous voulez tout ça est cumulé au fait que les agriculteurs ont décidé et ont souhaité être capables de s'adapter et de s'anticiper. C'est entre autres pour ça que dans un certain nombre de régions depuis quelques années on a mis en place des projets pour capter l'eau, stocker l'eau qui tombe en abondance l'hiver et ça a été dit tout à l'heure justement cet hiver entre autres où il est tombé des quantités astronomiques. Donc c'est de mettre en place des retenues d'eau pour justement garder l'eau l'hiver et être capable de pouvoir la restituer donc à nos cultures, à la terre, à la biodiversité l'été quand il y en a besoin. Hein. D'ailleurs, beaucoup disent c'est juste pour irriguer des champs, des cultures intensives. Je rappelle juste que il y a 2 ans, avec des incendies énormes dans le Var et en Corse, s'il n'y avait pas eu un certain nombre de retenues collinaires ou de retenues d'eau pour aider les sapeurs-pompiers à venir à bout du feu, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Deuxièmement, en
C'est une
restituant
réponse que vous
l'eau
faites préalablement aux
l'été.
écologistes qui disent que les retenues d'eau peuvent assécher les nappes phréatiques.
Mais peuvent assécher les nappes phréatiques. Le problème, c'est qu'en fait, ce dérèglement climatique-là fait qu'on a beaucoup plus d'eau l'hiver et beaucoup moins l'été. Donc, c'est pas juste une histoire de nappes phréatiques parce que l'eau s'écoule naturellement, mais l'hiver, il y a beaucoup trop d'eau. Donc, c'est pas le prélèvement que l'agriculture va faire l'hiver pour le stocker, pour la restituer l'été, qui va assécher les nappes phréatiques. C'est un argument totalement faux.
Restez bien à l'écoute, Samuel Vandal et Jean Jouzel. Nous avons beaucoup d'auditeurs au 39-21. Nous allons les prendre et vous allez répondre à leurs interrogations. C'est le débat des grandes voix ce soir. À tout de suite.
Votre grand journal du soir, la suite sur Europe 1 avec le débat des grandes voix autour de vous. François, ce soir, le président des jeunes agriculteurs Samuel Vandal et le climatologue Jean Jouzel.
Et nous avons beaucoup d'auditeurs, Géraldine, au 39-21. Nous avons Lounis, notamment, qui nous appelle de Lille. Bonsoir, Lounis.
Bonsoir.
Vous aviez une question directe à adresser à nos grandes voix du soir.
Effectivement, ma question est la suivante. Donc, en ces temps de forte chaleur, quel impact la canicule peut-elle avoir sur la pollution?
Question claire et nette, et ça vous préoccupe, hein. Je vois que vous avez 23 ans, Lounis.
Oui, en ces temps de pollution de l'air, etc., enfin, une augmentation de la chaleur peut... Je me demandais si ça pouvait aggraver vraiment.
Nous sommes soumis d'ailleurs, nous à Paris, à des mesures de restriction de circulation. Hein. Seules les vignettes critères 0, 1 et 2 peuvent circuler dans Paris depuis hier. Jean Jouzel, réponse.
Oui, ça peut disons, accélérer, amplifier la pollution, en particulier celle liée à l'ozone troposphérique, qui est un élément polluant, puisque, disons, les précurseurs de l'ozone sont là. La fabrication des précurseurs de l'ozone est accélérée en cas de chaleur. Donc, il y a vraiment, en cas de canicule, plus de difficultés à faire face à la pollution. D'abord, c'est plus difficile. Et puis, il y a un risque de pollution supplémentaire pour tout ce qui concerne l'ozone.
On rappelle d'ailleurs que l'alerte rouge définie par Météo France ce soir, c'est une alerte qui nous incite à la plus extrême vigilance pour les risques de surmortalité. Nous avons également au standard d'Europe 1, au 3921, Sébastien qui nous appelle du beau département des Vosges. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir François.
Votre question Sébastien, Jean Jouzel et Samuel Vandal sont à l'écoute.
Alors, j'ai deux questions. L'une pour le président des GIA. Quelles cultures on pourrait implanter dans notre région de l'Est, parce que les luzernes, on a du mal de les implanter. Et puis les sorgots, c'est assez complexe de les implanter, puisque au mois de mai, on a encore la période de gel. Et pour ce qui est du climatologue, j'ai entendu parler que le Gulf Stream ralentissait. C'est ce qui permettait à la France d'avoir un climat plus doux que nos voisins québécois qui sont sur le même parallèle terrestre. Quel climat on va avoir d'ici 30-40 ans ?
Deux excellentes questions. La première, quelles alternatives, Samuel Vandal, pour Sébastien qui nous appelle des Vosges, je rappelle.
Alors, des alternatives. Typiquement, chaque terroir et chaque territoire a vraiment son concept pour trouver des alternatives. Moi, je pense que, de mon point de vue, il est important que on remette les moyens sur la recherche et l'innovation pour justement avoir plus de moyens pour trouver de nouvelles cultures. Moi, je pense que l'idéal est réellement de pouvoir être capable de se tourner vers des cultures avec un plus gros fort taux de protéines, d'autant plus que c'est souvent des cultures qui captent et qui stockent plus de carbone. Donc, je fais juste un petit lien avec la question juste avant. Hein. Quand il fait plus chaud, le risque de pollution est plus important parce que nous, en tant qu'agriculteurs qui stockons et captons du carbone, nos plantes sont affaiblies et donc elles captent et elles stockent beaucoup moins de carbone. C'était juste la petite part à porter.
Donc
pour moi,
ouais.
Il est important de pouvoir avoir des couverts végétaux tout au long de l'année qui soient capables de s'adapter. J'entends bien la problématique autour de la luzerne et du sorgho, avec en plus toute la difficulté autour de la transformation, mais je pense qu'il est important de pouvoir garder des cultures à fort taux protéines, à fort taux de couverture, des cultures qui sont pas forcément grandes demandeuses en eau. C'est le cas, entre autres, sur les beaucoup d'essais qu'on est en train de faire autour sur le soja. La cameline aussi est une nouvelle culture qui est en train d'arriver et qui est en essai pour justement pouvoir répondre et à l'alimentation du bétail, à l'alimentation des humains, avec ce réchauffement climatique-là et qui est capable de s'adapter dans beaucoup de sols. Après, chaque sol, chaque terre a sa particularité et donc c'est sur le territoire qu'il faut mener des expérimentations et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement de remettre en place des vrais programmes de recherche et d'innovation
pour aider à accompagner les agriculteurs. Du terrain, évidemment, sur ce développement. On voit bien, Jean Jouzel, l'impact que ce réchauffement climatique ou ce dérèglement climatique a sur nos vies au quotidien. Quelle réponse à Sébastien sur l'impact du réchauffement sur les courants, notamment sur le Gulf Stream.
Donc d'abord qu'il a raison que, disons, nos régions, on bénéficie, là je suis en Bretagne aujourd'hui, on bénéficie de climats relativement cléments grâce au Gulf Stream qui nous amène des eaux chaudes depuis, disons, le golfe du Mexique. Donc on a souvent évoqué ce risque que le Gulf Stream se modifie, arrive plus au sud, et ça c'est un risque qui serait lié par exemple à l'arrivée d'eau douce dans l'Atlantique Nord. La fonte du Groenland par exemple pourrait y contribuer, mais ce risque n'est pas envisageable. Disons, un véritable changement du fonctionnement du Gulf Stream n'est pas envisageable d'ici la fin du siècle. Le vrai problème à échéance de ce siècle et même au-delà, eh bien, c'est vraiment le réchauffement climatique lié aux activités humaines. Donc il faut bien comprendre que même si le Gulf Stream, se modifiait de façon importante, eh bien, ça ne changerait pas le réchauffement global. Ça pourrait effectivement affecter le climat dans nos régions, mais cela n'est envisageable qu'à échéance de quelques siècles. Donc l'arrêt du Gulf Stream, la modification plutôt du Gulf Stream n'est pas susceptible d'influencer de façon très importante le climat d'un pays comme la France ou l'Europe de l'Ouest, en tout cas pas à échéance de 10, 20 ou 30 ans. Même si c'est une influence, c'est quand même plutôt marginal par rapport au réchauffement
aux
directement
lié à nos activités humaines. Ouais. Bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été aussi pédagogues et d'avoir répondu avec autant de pertinence et de clarté aux interrogations de nos auditeurs. Pardon à tous ceux que je n'ai pas pu prendre ce soir, mais nul doute qu'avec la multiplication de ces épisodes de canicule, on aura l'occasion d'y revenir. Je remercie donc Lounis et Sébastien qui nous ont appelés de Lille et des Vosges. Et je vous remercie Samuel Vandal, président des Jeunes Agriculteurs, et Jean Jouzal, qu'on ne présente plus, le grand climatologue qui obtint le prix Nobel avec les travaux du GIEC auxquels il participait. Et merci d'avoir donné de votre temps pour les auditeurs d'Europe 1.